Bonjour, c'est toujours un grand plaisir que je vous retrouve chaque vendredi pour mon émission Alice et vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence émotionnelle, de notre capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser nos propres émotions et à composer avec celles des autres. Et c'est avec l'aide d'un témoignage de qualité et accompagné comme à chaque fois par Jennifer que nous allons décortiquer ce sujet pour vous donner un maximum d'explications.
Et un maximum d'explications, il va en falloir, Alice, parce que avant qu'on commence à faire cette émission, on en a parlé et je trouve que ça va être un petit peu compliqué pour moi de me placer dans cette émission. Mais en tout cas, avec grand plaisir, je serai là pour être votre intermédiaire, chers auditeurs, dans l'émission Alice et vous, une émission qui vous est dédiée pour vous, pour votre bien-être, connaître un petit peu le fonctionnement de nos émotions, par exemple pour aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'intelligence émotionnelle. Et donc, avec Alice et vous, votre psychanalyste, chaque vendredi, vous la retrouvez sur Diva FM de 17h à 18h. On pousse la porte du cabinet et on va commencer tout de suite notre séance. Alors Alice, vraiment un thème je trouve assez particulier puisqu'on fait appel à l'intelligence émotionnelle et de suite on va définir ce que c'est.
Tout à fait. Alors pour peut-être définir l'intelligence émotionnelle, on va commencer à parler de cette fameuse intelligence que nous abordons au quotidien qui est plutôt en termes d'intelligence cognitive. D'accord ? C'est-à-dire que l'intelligence, on va dire, désigne communément le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu, leur permettant de résoudre un problème ou de s'adapter à leur environnement. Elle se résume souvent au cerveau. On va dire ça, ça on le décortiquera, on le développera par la suite avec notre invité du jour. Mais voilà de quoi il s'agit quand on parle d'intelligence, d'où les tests de quotient intellectuel pour vraiment évaluer notre capacité à pouvoir mettre en place des stratégies et quelque part à pouvoir maîtriser et comprendre l'environnement.
Comprendre l'environnement, aussi s'adapter dans la société dans laquelle on est, puisque peut-être ça peut changer aussi en fonction des cultures, des pays dans lesquels on est. Il y a pas mal de choses à prendre en considération. Et on va voir que c'est vraiment un sujet qui peut paraître compliqué, mais très intéressant et qu'on va développer tout de suite. Alice, est-ce que je vous laisse le plaisir de commencer à présenter notre invité ou vous voulez aborder directement des thèmes? Je vous laisse faire. Hein. Vous savez que vous êtes l'orchestre, chef orchestre. Hein.
Tout à fait. Moi, je vais simplement... Voilà, continue en parlant un petit peu de développement cognitif et après on fera rentrer en scène Claire.
Alors, on vous écoute attentivement avec l'intelligence avec, donc c'est quoi? C'est nos connexions cérébrales. Quand on dit cognitive, c'est quoi exactement?
Alors, je vais vous donner la définition exacte. Donc, quand on parle de développement cognitif, on parle de l'acquisition des capacités comme la mémoire, l'attention, le raisonnement et la planification. Le développement cognitif comprend aussi le développement du langage, la capacité d'un enfant à communiquer, par exemple, à comprendre ce qui lui est dit et à s'exprimer verbalement.
Alors, est-ce que justement cette capacité, ce développement est presque propre à chacun? Est-ce qu'il y a une intelligence parfois qui peut permettre l'apprentissage plus rapide pour certains que pour d'autres?
Oui, tout à fait. En fonction de ses gènes, en fonction de son histoire, en fonction de son environnement, tout à fait. Nous sommes, on n'est pas non plus tous égaux vis-à-vis de ça, bien évidemment. Et après, la bonne nouvelle, bon, après on partira sur intelligence émotionnelle, c'est que aussi tout se cultive et tout peut aussi également se développer pour avoir une meilleure adaptation en société.
Quand on parle justement du développement de nos petites neurones, en quelque sorte, ça peut faire appel finalement à plusieurs facteurs. Ce n'est pas d'être seulement bon, admettons, à l'école et d'apprendre et de bûcher sur nos devoirs, comme on pourrait peut-être l'imaginer tout simplement, mais c'est qu'il y a aussi peut-être d'autres facteurs qui rentrent en jeu peut-être, comme je ne sais pas, on va dire l'entourage familial, la sollicitation peut-être aussi de cet entourage peut-être, de pas laisser un enfant dans un coin, lui permettre de se développer. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses comme ça, Alice, qui rentrent en jeu?
Pour moi, tout est multifactoriel. Il y a déjà, comme on disait, la propre capacité de l'enfant plus bien évidemment, on va dire, l'environnement, les parents, voilà, l'intérêt que peuvent susciter les parents chez l'enfant. C'est bon de le solliciter, mais c'est peut-être pas non plus trop bon de le sursolliciter.
Et quand on parle de solliciter, là, vous diriez par exemple de quoi ? De solliciter à des exercices intellectuels, c'est ça quand vous dites solliciter ?
Même tout simplement à des jeux, à apprendre un chant à un enfant, apprendre les couleurs de façon simple,
de vouloir,
ludique.
De vouloir vraiment dire, allez, à cet âge-là, c'est le moment où tu dois apprendre les couleurs ou l'alphabet, de ne pas forcer, vous voulez dire, à cet apprentissage.
Parce que nous développons tous à notre propre rythme et à chaque fois, c'est de pouvoir voir et comprendre ou peut-être en est l'enfant et s'adapter à sa temporalité.
Oui, et à son rythme aussi, peut-être à ses envies, de ne pas là aussi contraindre et frustrer l'enfant. Donc, beaucoup de facteurs pour développer ça, mais alors j'entends aussi presque génétique aussi, en quelque sorte. Il y a ça qui fait appel ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, bien évidemment.
Vous voulez dire quoi? Que des imbéciles vont développer des imbéciles? Non, je dis ça familièrement,
Jennifer,
c'est pour rigoler.
On ne peut pas dire des choses comme ça. Mais bien évidemment.
Je fais rire, vous avez vu.
Mais bien évidemment, je veux dire, si les parents ont un haut conscient intellectuel ou une grosse capacité à maîtriser ou à savoir apprendre, très souvent, l'enfant pourrait avoir les mêmes capacités, bien évidemment. Mais bon.
Oui, c'est alors là, c'est, on fait encore appel à l'entourage aussi, pas qu'au génétique, en quelque sorte.
C'est ça. Comme je dis, tout est différent selon chaque enfant, selon chaque environnement. Voilà, ça c'est ce qu'on va aussi déterminer aujourd'hui.
Je vous laisse faire alors, Alice.
Très bien. Alors moi, je vais juste vous parler maintenant de cette intelligence émotionnelle et ensuite on va aller dans le vif du sujet avec la spécialiste du jour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le concept d'intelligence émotionnelle va aucunement, on va dire, venir contrarier celui de quotient intellectuel. Ils vont vraiment venir se compléter. Pourquoi ? Parce que cela sert à démontrer que l'intelligence humaine ne se réduit pas non plus au seul quotient intellectuel qui résulte très souvent d'un test psychométrique, voilà, qui entend fournir une évaluation quantitative standardisée, d'accord ? C'est-à-dire que, lors de ce quotient intellectuel, on est souvent déconnecté de ce qu'on appelle l'intériorité de la personne.
Donc, c'est-à-dire qu'on fait quoi avec, par exemple, juste un test de QI, en quelque sorte. Mm-hmm. On voit... Parce qu'en fait, pour qu'on sache, en fait, quand on estime le quotient intellectuel, ça se fait sur quelle base ?
Pour cela, je vais vous faire entrer la spécialiste.
Alors, avant que vous vouliez peut-être dire avant
le
truc émotionnel.
Ah non, non,
parce qu'en fait, si vous voulez, je pense que souvent, beaucoup de monde disent que le QI, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, parfois, on ne sait pas sur quoi on la mesure. Est-ce que c'est sur des données de connaissances culturelles voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu et on ne le sait pas forcément. Et justement, ça va nous permettre peut-être de faire la différence avec justement l'intelligence émotionnelle.
Tout à fait.
Qui est encore autre chose et qui va peut-être aussi être à un moment donné relié au quotient intellectuel.
Tout à fait. Bon. Et pour cela, on va de suite écouter Claire
Bernier,
que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui.
Eh bien, bonjour mesdames.
Bonjour Claire.
Merci de votre conscience. Le lien est parfait. Le lien est parfait parce qu'en fait, l'homme a une intelligence que nous avons décomposé de plusieurs façons en fonction des périodes sociales. Il s'avère qu'au siècle dernier, ce qui importait, c'était le QI. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le quotient intellectuel est né. Et il est né, cette prise de mesure et cette échelle de mesure, on la doit à un Français qui a été commandité par le gouvernement français et plus particulièrement les représentants de l'éducation nationale de l'époque. On est dans les années 1905 exactement, et on a demandé à ces scientifiques, qui sont des psychologues et des psychiatres, de réaliser un test. C'est toujours ce même test qui est utilisé aujourd'hui, mais certes il a été mis à jour, mais c'est toujours la même philosophie. Sauf qu'à la base, son intention c'était de déterminer, ouvrez les guillemets, ce que l'on appelait les esprits faibles. Le but étant de faire en sorte que les programmes de financement puissent bénéficier plus particulièrement aux autres. Parce que la France avait envie d'investir sur son élite, et son élite était déterminée par le QI.
D'accord.
C'est juste une anecdote, mais qui est intéressante, parce que au départ, l'idée, c'était pas d'aller chercher les plus intelligents.
Non, c'était justement d'identifier les moins intelligentes. D'accord.
Ok. Donc, et ce QI, il correspondait aux besoins de l'époque. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, hein, même si on a changé de siècle maintenant, on se rappelle tous l'époque où nos enseignants nous disaient « T'es bonne dans tout, fais un bac S mm-hmm. ». Je sais, maintenant, ça ne s'appelle plus bac S. Ça. Ça a changé de nom. Mais pendant des années, on disait aux parents d'enfants qui étaient plutôt à l'aise à l'école, qu'il était bon pour eux, bah, qui peut le plus, peut le moins, vas-y, va sur le bac S. Mais en fait, pourquoi le bac S? Parce que le bac S enseignait toutes les compétences qui étaient plus particulièrement mesurées dans le cadre du QI.
Mais je pense que c'est toujours le cas. Hein. On oriente beaucoup, on dit que les plus intelligents sont ceux qui sont dans la filière S, si elle est toujours nommée ainsi,
voilà,
scientifique, voilà, ouais. Bon, voilà. Et que pour dire les moins intelligents, c'était ceux qui étaient en bac L, justement, parce que c'est trop littéraire, et là, c'était les moins intelligents. Et pourtant...
J'en viens du bac L.
Ah, excusez-moi. Je n'ai pas voulu. Non, j'ai pas voulu discréditer.
Très fière de mon bac L.
Désolée Alice.
Alors justement, je vais vous dire comment les choses se sont rééquilibrées pour pouvoir effectivement donner enfin sa place à l'intelligence émotionnelle. Et moi, j'aime appeler le QI et le QE. J'aime les appeler les frères amis. Donc contrairement à ce que la culture générale a tendance à appeler plutôt des frères ennemis, en valorisant l'un au détriment de l'autre. Et je vous dirai dans quelques instants pourquoi est-ce que le QI a une espèce de connotation un peu borderline, un peu féminine, un peu émotionnelle, un peu secondaire. Vous allez voir pourquoi, c'est assez facile à comprendre. Mais juste pour préciser, donc le QI, la capacité à mesurer le quotient intellectuel, est axée sur l'observation de votre capacité à mémoriser des chiffres, à être capable de mémoriser dans un temps court des données que l'on vous délivre et à pouvoir les restituer dans l'instant. Elle mesure aussi votre capacité verbale, hein, votre capacité à donner du sens aux mots, de la nuance aux mots. Les exercices de QI sont particuliers. On va vous demander, par exemple, j'aime beaucoup cette anecdote-là, dans le cadre du QI, donc je ne vais surtout pas dévoiler l'intégralité du test, mais dans l'un des tests, on va vous demander, vous avez un enfant qui a 25 pommes, cet enfant doit distribuer X pommes à X enfants en fonction de X critères, combien de pommes lui restera-t-il à la fin? Le QI attend de vous un résultat chiffré. Si vous répondez, ok, le résultat de cette question, c'est je prends 15 multiplié par 2 que je divise par 4 et que je... Mm-hmm. J'invente évidemment.
Bien sûr.
Votre réponse ne sera pas considérée comme correcte. Seul importe votre capacité à donner le chiffre.
En fait, vous voulez dire de développer la réponse orale, de manière orale, hein, c'est bien ce que je comprends. Hein,
absolument.
Même si la finalité, le résultat est bon, le fait de l'exprimer ainsi...
D'un point de vue du QI, ne fait pas partie de votre intelligence.
Le prend pas en compte.
Ah oui, il faudrait quoi exprimer, mettons,
10 ? Un résultat clair et net.
Un chiffre.
Le résultat est 10.
Et le bon. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont extrêmement forts pour cela. Et quand vous disiez tout à l'heure, il y a une forme de génétique, oui, c'est vrai. Il y a une forme de génétique parce que quand on a une structure familiale qui est plutôt dans cette émergence-là, dans cette logique-là, bah forcément, quand on a un parent qui est fou de calcul mental, on aura des enfants qui auront plus d'appétence pour le calcul mental. Et là, c'est un exemple illustratif. Bon, et ce qui s'est passé, c'est que nos chers... Alfred Binet, pour le nommer, hein, c'est lui qui avait créé le premier QI, est allé émigrer aux États-Unis. Et là, de nouvelles études sont arrivées, et il y a juste un élément scientifique très important qui est apparu, qui est ce qu'on appelle le marqueur somatique. Et en fait, on a découvert une chose, c'est que des personnes avec des QI extrêmement élevés étaient capables de prendre des décisions extrêmement mauvaises à cause de ces marqueurs somatiques. Lorsque vous vous adressez à un QI très supérieur et que vous lui donnez un certain nombre d'éléments de données pour prendre une décision, il va se baser sur sa logique, sur ses compétences et sur ses acquis pour prendre la bonne décision. Et dans 99% des cas, ça va être la meilleure des décisions. Sauf qu'à partir du moment où des éléments émotionnels entrent en jeu, par exemple, de cette décision va dépendre le devenir de l'entreprise. De cette décision va dépendre l'avenir de mon enfant. Au niveau neurologique, il y a des marqueurs somatiques qui interviennent et qui appartiennent à nos capacités émotionnelles. Et là, quelqu'un qui a un QI extrêmement élevé, mais qui n'aura pas travaillé l'aspect émotionnel de son intelligence, va être tétanisé et va risquer de prendre de très mauvaises décisions. Une autre anecdote, souvent on a entendu parler des gens qui ont eu des actes héroïques. J'ai vu un enfant dans l'eau glacée, je me suis jetée, je sais pas nager, je me suis jetée, j'ai réussi à le sauver, et quand les journalistes interrogent, ce sont des histoires, ouais, bien sûr, quand le journaliste interroge la personne, mais qu'est-ce que vous... j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. Ce sont des instants qui neurologiquement ont été mesurés, hein, avec des outils bien précis, des scanners bien précis, qui font que ces marqueurs somatiques, à des instants précis, viennent complètement bloquer toutes les structures neuronales qui appartiennent au domaine du QI pour laisser place à un autre type d'intelligence qui, elle aussi, appartiennent à la structure neuronale. Et là, on agit.
On est plus alors quoi, dans l'intelligence émotionnelle, là, en quelque sorte ?
Et voilà. On est en train de rentrer dans la... Alors, pour être tout de suite clair sur ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, en fait, elle est composée de cinq grandes dimensions. Notre capacité à nous percevoir, notre capacité à établir des relations humaines, notre capacité à nous exprimer, notre capacité à prendre des décisions et notre capacité à gérer le stress. Tout cela fait partie de nos intelligences naturelles. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont opposées les unes aux autres ? C'est que nous avons deux types de mesures, l'une qui s'appelle le quotient intellectuel, qui va s'intéresser à toute une partie dont on a parlé tout à l'heure, dont ces éléments ne font pas partie.
Bien sûr.
Et le quotient émotionnel, qui lui va s'intéresser précisément à ces compétences-là. Du coup, vous pouvez avoir un QI très très élevé, un QI très bas, si vous n'avez pas été éduqué pour travailler votre intelligence émotionnelle, et inversement. Alors, de mon expérience à moi, ce qui a fait défaut à l'expansion, parce qu'il faut quand même savoir que cette notion d'intelligence émotionnelle, hein, elle a commencé à se développer en 1948.
Ah c'est, oui, c'est pas si vieux que ça. Non, hein.
C'est plutôt récent.
Ah oui.
Le QI, 1945, 50 ans plus tard, les scientifiques commencent à dire « Hé les gars, il manque une dimension dans notre truc. » Donc voilà, et ce sont des scientifiques, hein, ce sont pas des... Je dénigre pas du tout les mouvements philosophiques, hein, mais ça n'est pas issu ni de l'avènement du bien-être, des coachs, des life coachs dont on parle beaucoup en ce moment. C'est vraiment issu du monde scientifique.
C'est fou.
Et
hein.
Aujourd'hui, dans le langage courant, pardonnez-moi cette image un peu particulière, mais peut-être de moins en moins maintenant, mais nous sommes nombreux à appeler une tomate un fruit. Non, en fait, un légume.
Oui.
Il y a que depuis très peu de temps qu'on parle de fruits.
Voilà, oui, c'est vrai.
C'est exactement l'inverse, vous voyez.
Oh, ouais.
Eh bien, en fait, de la même façon, la notion d'émotion, les gens la comparent avec l'émotivité. Et l'émotion et l'émotivité sont deux choses différentes.
Ouais.
Je suis capable de pleurer de joie. Je suis capable de pleurer de peur. Je suis capable de pleurer de désespoir. Ça n'a absolument rien à voir avec l'émotion. Donc l'émotivité...
Ah bon ?
Alice, tu voulais préciser quelque chose ?
Tout à fait, Claire a complètement raison et elle fait bien de le préciser. Parce qu'effectivement, dans cette intelligence émotionnelle, il ne s'agit pas particulièrement d'émotivité. Voilà, on ne parle pas de sensibilité.
Et pourtant, c'est tellement deux mots voisins, émotion, émotivité, on se dit que ça fait appel au même sentiment, au même comportement.
Oui, c'est le même radical, mais finalement, ça ne s'exprime pas de la même façon parce que ça vient...
Émotion, émotivité. Moi, j'aurais du mal, franchement, à définir leurs différences, vraiment.
Parce qu'on va dire émotivité, on pourrait peut-être, pour faire simple, la rallier à sensibilité.
Bien sûr.
À la sensibilité du quotidien, des histoires qu'on entend, de ce qu'on peut ressentir face à des situations diverses. Tandis que lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, on parle réellement de la capacité... À ressentir, à comprendre ce qui se joue en nous-mêmes et dans la relation à l'autre par rapport à cette relation d'affect. Je sais pas si je suis assez claire.
Oui, je comprends. En fait, presque l'émotivité, c'est presque quelque chose qui est une réaction un peu spontanée, en quelque sorte. Quand on a vu l'exemple que vous disiez, Claire, tout à l'heure, de dire je suis jeté dans l'eau, j'ai pas réfléchi, je sais pas nager, mais parce que j'ai fait face au danger de la personne qui était en train de peut-être mourir. Et quand on parle de peut-être que je dis pas, c'est pas la bonne chose, non, Claire, dites-moi.
C'est juste que ça, c'est l'expression de justement de l'intelligence émotionnelle.
Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Et donc, l'émotivité, ça serait quoi? Alors, une réaction spontanée, c'est quoi, en fait?
Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'accompagne des enfants de maternelle pour voir un dessin animé. Je ne me rappelle plus du titre, mais japonais. Un animé, pardon, japonais. Mm-hmm. Et j'ai pleuré du début à la fin du film. D'accord? Les enfants avaient... le plus grand devait avoir 7 ans. Il n'y en a pas un qui a versé une larme parce qu'ils ont regardé cela au premier degré. Moi, j'étais très émotive à l'époque. Et quand je suis sortie, par chance, c'était plein soleil, donc j'ai mis les lunettes. Et donc, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup. Mais ce n'était pas mon intelligence émotionnelle. C'était juste mon émotivité. C'est de voir toutes ces choses tristes. Et voilà, moi, je ne vais pas voir les films en m'interdit au moins de 12 ans. J'ai pas envie de voir les trucs tristes. Ça, c'est de l'émotivité. D'accord. C'est pas... de l'intelligence émotionnelle. Oui, parce c'est un autre registre.
Pour revenir à l'exemple de cette personne qui va sauver quelqu'un qui se noie malgré le fait qu'il ne sache pas nager, on intervient aussi au niveau du domaine, on va dire...
normal.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Parce que là, qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand on ne pense pas et qu'on agit? On va dire, c'est le cerveau qui nous donne de l'ordre. Des ordres, on va dire là, on va venir toucher à cette partie du cerveau qui est archaïque et ces fameux neurotransmetteurs et ces hormones que l'on sécrète lorsqu'on est en danger ou qu'on est dans cet instant de survie.
D'accord.
Vous voyez, c'est
dur, hein, franchement.
Mais
c'est intéressant parce que franchement, on fait vraiment appel au fonctionnement à nous en tant qu'humains, parce que c'est quand même une forme d'intelligence qui est propre à l'humanité. Mais quand on parle donc d'émotivité, est-ce que l'émotivité peut être un facteur négatif au développement de l'intelligence émotionnelle, trop d'émotions ou pour même le quotient intellectuel?
Non. Allez-y, Claire.
Alice, non, Jean-Marie.
Oh non.
Tellement qu'elles ont un dieu, je te laisse. Trop d'émotions, les deux.
Non, allez-y, Claire, allez-y. Apportez.
Non, absolument pas. Parce que il y a deux choses qui sont différentes. Il y a ce que l'on est, la personnalité, et il y a nos intelligences. La particularité, ça me permet de faire un lien. Et ça répond aussi à une de vos premières questions. La particularité du QI, c'est que c'est quelque chose que l'on n'a pas mérité. C'est génétique. On est avec un certain QI. Et il est vrai qu'il peut évoluer. Il y a une petite variabilité en fonction du milieu socioculturel dans lequel on évolue, en fonction du contexte de vie, etc.
Les stimulations,
on va pouvoir le faire bouger d'un point ou deux. Okay. Mais ça fait partie, c'est constitutif de la personne que nous sommes au niveau génétique. Là où ça commence à devenir carrément plus intéressant, c'est que cette intelligence que l'on appelle donc émotionnelle, elle évolue. Elle évolue par le travail. Et quand on parlait tout à l'heure, quand vous parliez à l'instant, des personnes qui seraient, ouvrez les guillemets, trop émotives. Déjà, c'est pas le moment, parce que sinon je reste avec vous toute la journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire que trop émotive,
hein?
C'est trop émotive par rapport à quoi? Par rapport à l'environnement dans lequel elle se trouve? Par rapport à sa capacité à l'exprimer de manière pondérée? Et quel est l'objectif pour elle de s'accepter? Bon, il y a vraiment tout un univers à explorer qui serait, je suis sûre, le sujet d'un autre émission.
On est bien d'accord.
Tiens. Mais une nature plus émotive que d'autres veut simplement dire que dans le cadre des marqueurs de son intelligence émotionnelle, il y a d'autres éléments sur lesquels elle va pouvoir s'appuyer, parce qu'on est naturellement en capacité, on a des intelligences naturelles émotionnelles, qui existent, et elle va pouvoir travailler sur d'autres éléments qui vont l'aider à mieux exprimer, rappelez-vous, les valeurs, mieux se percevoir, mieux exprimer ce qu'elle ressent au service d'une relation humaine avec les autres de meilleure qualité, tout en respectant sa personnalité qui est d'être une personne émotive. Okay ? Donc cette expression, le fait que ce soit en concordance avec la situation actuelle et que ce ne soit pas un frein dans sa vie, là, on est dans le cadre du registre de l'intelligence émotionnelle et elle, jusqu'à l'âge de 70 ans, elle évolue. Et elle évolue j'allais presque dire du simple double. C'est pour ça aussi que...
Mais elle est quantifiable, elle est...
Complètement. Elle a un process qui est officiel de prise de mesure, avec des résultats, qui sont d'ailleurs une échelle de mesure qui est, j'ai constaté, exactement sur le même écart d'échelle que le QI. Hein,
d'accord.
De 70 à un peu plus de 130. Le seul cas particulier où quelqu'un est dit non intelligent, alors au sens médical du terme, hein, mm-hmm. j'entends bien, pas au sens... courant du terme, c'est lorsqu'une personne est vraiment au-dessous de 70 en QI, elle appartient à la sphère des personnes... le terme technique, je ne l'aime pas, je n'ai pas envie de l'utiliser, mais voilà, sous-équipée, on va dire, vraiment sous-équipée, et appartient au domaine du handicap. OK ? Donc ça, c'est dans le cadre du QI. Je voudrais vous faire observer une chose. Quand on rentre sur le marché du travail... quand on a 20 ans, on n'est pas tellement intéressé par les entreprises. On nous aime pas tellement, sauf si on est overdiplômé parce qu'on manque d'expérience. En général, le plein potentiel, c'est 30-40 ans. Hein. Prenons un exemple, un homme, cadre supérieur dans une entreprise de 30 à 40 ans, il va donner le maximum de lui-même et ça va très bien aller. À partir de 40 ans, on commence à avoir des challenges qui ne fonctionnent pas bien, voilà, il commence à avoir des difficultés de carrière, et nous on le voit, hein. Moi je suis coach, donc je vois bien que c'est aussi à ces moments de vie où les gens ont besoin d'aide, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est que tout au long de leur vie, le QI les a portés. Les a portés dans leurs études, c'était eux les premiers de la classe. Les a portés pour rentrer dans l'entreprise, parce que bon, bah, même s'ils n'avaient pas d'expérience, ils étaient tellement diplômés bien que leur capacité était très valorisée. Sauf qu'à un moment donné, ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire avec leur QI. Et ceux qui ont l'intelligence, vers les 40 ans, de commencer à se dire... Plutôt, ils le font, mieux c'est. Moi, j'ai des jeunes de 20 ans qui commencent à s'intéresser à leur intelligence émotionnelle, et j'en suis ravie. Eh bien, en fait, ce qui les sort de la norme, ces cadres supérieurs, c'est ceux qui commencent à s'intéresser, effectivement, à leur intelligence émotionnelle. Regardez un manager. Un manager qui a une compétence extraordinaire, mais qui est un despote. Il n'arrivera jamais à tirer le meilleur parti de ses équipes.
C'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est vrai, qu'on voit souvent, hein, Alice, des grands diplômés, des hommes d'affaires. Et c'est vrai qu'avoir, pour dire, on leur dit cœur de pierre, parce qu'il n'y a aucun aspect d'émotion là-dedans. Ils font vraiment appel qu'à leur intelligence, à ce qu'ils ont appris, leurs compétences, et stop.
C'est ça, ils sont très forts stratégiquement parlant, au niveau de la théorie, au niveau de la mise en place, peut-être des plans, mais en aucun cas, ils n'intègrent cette notion d'intelligence émotionnelle. Et ce qui est important aussi de relier à cette intelligence émotionnelle, justement comme Claire en parle, c'est cette notion de compétence sociale, finalement, il me semble. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a ces tests de QI qui ont été là, présents dans les recrutements, mais aujourd'hui arrive, bon ça c'est clair, c'est son domaine à elle, qui effectivement, ces fameux quotients émotionnels qui va pouvoir venir mesurer quelque part et faire évoluer, c'est ça qui est intéressant.
C'est quelque chose, je pense, de récent, ça, Alice, hein, vraiment.
Ça, Claire nous répondra là-dessus. Mais je veux dire, ça peut permettre de faire évoluer sur la confiance en soi, sur la confiance en l'autre, sur l'empathie. On peut travailler sur l'esprit d'équipe, la gestion du temps, du stress, enfin de la communication dont parlait également Claire, et aussi tout ce qui est au niveau sens de responsabilité, curiosité, je veux dire, ce quotient émotionnel, cette intelligence-là permet de faire le point, de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ces notions pour justement pouvoir les développer. Là, je parle déjà au moins au sein de l'entreprise. Mais après,
alors, c'est vrai que c'est quelque chose que dans les établissements scolaires, on ne nous apprend pas forcément. C'est vrai qu'il y a tellement la pratique, le théorique, etc. Mais c'est vrai que malgré tout, moi, dans mon cursus scolaire, j'ai quand même vu, je pense, et vous allez le confirmer vous deux, une évolution malgré tout. On commence à faire appel de plus en plus à l'émotion, je pense, dans l'apprentissage. Je le vois sur... Et pourtant, je suis sortie du système scolaire, ça fait 10 ans déjà. Mais c'est vrai qu'on a commencé plus à parler d'empathie. L'empathie, elle revenait beaucoup sur la table, dans la fidélisation, dans tout cela. Et c'est quelque chose que je pense aujourd'hui, elle est peut-être de plus en plus mise sur la table dans les connaissances, non aussi ?
Complètement, ça va avec l'évolution du statut de l'enfant, voilà, qui était moins considéré auparavant. Maintenant, ben voilà, on s'est rendu compte qu'il était important d'écouter un enfant, de laisser s'exprimer. Et c'est à travers, on va dire, toutes ces évolutions, découvertes ou notions, qu'effectivement, on peut laisser peut-être la place, comme vous dites, dès l'école à cette intelligence émotionnelle que, on va dire, certains instituts ou professeurs qui sont plus sensibles vont mettre en place dans leur programme.
Oui, au lieu de vouloir ranger tout le monde dans les mêmes cases et de mettre tout le monde au même niveau aussi.
D'où vous voyez la création, pardon, je coupe Jennifer, bon, c'est même pas encore d'autres choses, mais écoles Montessori ou autre. Oui. Tout le monde n'est pas forcément fait pour le système scolaire actuel. Voilà.
C'est ça.
En fonction de qui est l'enfant et de comment il évolue.
Oui, et c'est vrai que ces écoles Montessori, je trouve qu'elles prennent de plus en plus de place et on voit beaucoup de parents de plus en plus s'intéresser à cette forme d'éducation. Et qui, je pense, est peut-être un peu plus adapté à vraiment la personnalité de l'enfant.
À certains enfants, voilà. Oui. Après, aussi, moi, je sais que je ne me fais pas que des amis lorsque je dis ça. C'est très, très bien pour certains enfants, mais pas pour tous, Montessori. Voilà.
D'accord. Ça sera l'occasion d'en parler, je pense.
Tout à fait, on fera une émission.
Voilà, il y en a des sujets.
Oui.
Alors justement, Claire, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça ?
Alors déjà, oui, l'entrée de cette notion d'intelligence émotionnelle dans le système scolaire...
C'est même dans les autres études, je parle. Hein.
Oh, ben, vous allez voir, bien plus qu'on imagine. Déjà, dans les petites infrastructures, c'est rentré par ce qu'on appelle la communication non-violente. Qui porte très très mal son nom d'ailleurs, que l'on appelle, donc l'acronyme est CNV, qui est un concept qui a été conceptualisé par un monsieur qui s'appelle Rosenberg, et qui explique de manière extrêmement simple comment les émotions sont le langage du corps. Mmh. Et qu'une émotion, on la ressent premièrement par le corps, puis par la tête. Un exemple très rapide, imaginez-vous assise sur une chaise, vous vous levez, vous allez à la cuisine, vous vous servez un verre d'eau, vous revenez, vous avalez votre verre d'eau et vous reprenez votre conversation avec moi. Bah, si je vous demande qu'est-ce qui vient de se passer, pourquoi vous vous êtes levé, vous allez me répondre.
J'avais soif.
Bien sûr. Et du coup, votre cerveau vous a dit lève-toi le. Ouais. Enfin, faux. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que et c'est prouvé scientifiquement, votre organisme a ressenti un besoin d'hydratation. Il vous a donné l'impulsion de vous lever, et ça se passe en micro-centièmes de seconde.
Ouais.
Votre cerveau, dont le rôle principal est de donner du sens aux choses, et vous a dit bah oui, ma cocotte, t'avais soif, tu t'es levé, je t'ai dit d'aller boire. C'est pas lui qui l'a dit, hein, c'est le corps. Parce que l'émotion du manque d'eau, de déshydratation, elle est arrivée avant tout. Et donc, Rosenberg a bien conceptualisé ça de manière extrêmement simple. Et ça parle justement d'empathie, de ressenti, de perception les uns aux autres, etc. Vous voyez, par exemple, quand un enfant va piquer le jouet d'un autre, le premier va se mettre à pleurer parce qu'il lui a pris. Et puis l'enfant qui a pris le jouet va le regarder, puis va le jeter. C'est une peau de vache, celui-là. Pourquoi il a fait ça? Il a pris son jouet, c'est même pas pour jouer avec. Mais en fait, non, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que cet enfant a vu un enfant en train de jouer, et ce qu'il a vu, c'est le plaisir qu'avait l'enfant à jouer avec ce jouet. Il lui a pris, il lui a volé. Une fois qu'il l'a eu en main, il n'a pas ressenti ce qu'il avait vu, là. Cette émotion-là.
Wow, ça fait...
Ben oui, parce que cette émotion-là, elle appartenait à celui qui était en train de jouer. Bon, du coup, il l'a acheté. Parce qu'un enfant, très très tôt, il est totalement centré sur ses émotions. Lui, ce qui l'intéressait, c'était ce que l'autre sentait, pas le jouet, il s'en fichait. Vu de l'extérieur par
regard... Pour s'approprier la même émotion, en fait.
Complètement.
D'accord.
Complètement. Et vu d'un regard extérieur, c'est juste un gamin qui est violent et qui lui a piqué son jouet.
Oui, de la méchanceté.
Voilà, complètement. Donc voilà, donc oui, dans le système scolaire, ça rentre. Je peux vous dire aussi que dans des... les commandements de bord, par exemple. Maintenant, dans leur formation, il y a des cours, qui ont attrait de plus en plus à l'intelligence émotionnelle. On parle quand même de gens qui font partie d'un métier qui est extrêmement codifié, où la créativité est...
Oui, et l'émotion ne rentre pas trop en jeu.
L'émotivité. Non.
L'émotivité.
Oui, n'entre pas en jeu. Mais l'émotion à 1000%.
Ah oui.
Et oui.
Vous comprenez pourquoi ?
Non,
quand
non.
On parle justement de cette émotivité qu'on peut lier à la sensibilité. Je veux dire, il faut être stable pour être commandant de bord.
D'accord, voilà. Ouais, je comprends bien. Okay. Ouais.
Et donc, par rapport à cette intelligence émotionnelle, c'est là qu'on va retrouver justement ces stratégies de communication, cet esprit d'équipe.
Donc là, on est dans l'émotivité, hein.
Non.
Non,
j'ai passé à l'émotion.
Alors attendez, l'émotion, ça veut dire que l'émotion, il faut qu'il soit stable en fait, c'est ça, c'est ça au niveau de l'émotion. Donc en fait, en quelque sorte, il faut pas qu'il perde son sang-froid, qu'il surréagisse sur ce qui pourrait se passer. Donc ça, c'est émotion.
Tout à fait.
Donc ça, il faut presque au contraire, ça soit à limite zéro. On est d'accord ?
C'est pour ça donc cette émotion appartient au langage émotionnel, cette intelligence émotionnelle dont on parle.
Exactement, un commandant de bord. Qui est le meilleur commandant de bord du monde, hein, par sa formation, par sa dextérité. S'il se comporte, parce que là, on va axer sur la perception de soi et les relations humaines. S'il ne se comporte pas correctement de ce point de vue-là, s'il ne développe pas une intelligence de la relation humaine, comment peut-il obtenir le meilleur de son copilote ? Comment peut-il obtenir la meilleure adhésion de son équipe navigante ? Regardez, il y a quelques années, là, le fameux Américain qui a fait atterrir son avion sur le lac. Ouais. Croyez-moi, c'est pas un scénario qu'on lui a présenté à l'école de formation.
Ah non, non, non.
Non, non, c'est un scénario qu'il a construit et il s'était appuyé sur quoi ? Sur sa compétence technique issue, mesurée par le QI et sur sa compétence émotionnelle basée sur plein d'autres éléments qui lui ont permis de prendre cette bonne décision.
Alors qu'en plus, il était plus que critiqué. Hein. C'est vrai que quand on voit ce film, on voit que justement, peut-être l'intelligence émotionnelle, elle est complètement mise de côté, puisqu'on dit, vous auriez dû agir, techniquement parlant, en faisant... C'est vrai que c'est des scénarios qui ont été répétés et re-répétés. Vous auriez dû, à X temps, faire ça, autre X temps, faire ci. Donc vraiment, là, il fallait que ça soit presque un robot. Donc en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est se dire qu'un robot aurait l'intelligence intellectuelle, mais pas l'intelligence émotionnelle.
C'est donc... exactement ça.
D'accord. Bon, ça y est, vous m'avez éveillée.
Vous m'avez fait, Jennifer.
Je suis intelligente.
C'est exactement. C'est super génial, parce qu'effectivement, l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui se développe beaucoup... Sa difficulté aujourd'hui, ça fait des années, hein.
Bien sûr.
Rappelez-vous les premiers jeux d'échecs que l'on avait, où vous avez les Kasparov qui jouaient contre des machines et qui arrivaient même à se faire battre. C'est très très longtemps que les ordinateurs sont capables de simuler notre QI, mais notre quotient émotionnel, ils en sont mais à des lumières. Et ça fait fantasmer beaucoup de scientifiques.
Mais oui,
donc voilà. Donc je voulais juste vous préciser une chose, c'est pour les personnes que ça intéresse. Les acteurs qui ont vraiment fait basculer QI, QE, il y a quelques noms comme ça à retenir, c'est Damasio. C'est le premier qui a vraiment dit « Ok les gars, non, le QI est impacté par le QE », avec cette histoire de marqueurs somatiques, et qui a démontré par des démarches scientifiques, et pas que analytiques, hein, par des prises de mesures, par des scanners, par une imagerie, par l'imagerie des connexions neuronales,
la neuroimagerie médicale.
Merci, c'est ça. Voilà, je vois tout et plus le mot. Que ces éléments issus de l'intelligence émotionnelle avaient un impact sur l'intelligence
intellectuelle.
Exactement. Donc c'est lui qui l'a montré. Voilà. Et par rapport, puisque vous étiez intéressé par rapport au sujet de l'enfance, il y a vraiment un ouvrage qu'il ne faut pas rater. C'est celui de Daniel Goleman. Qui a écrit, j'ai un accent en anglais pitoyable, allez, je le tente.
On le fait.
Je le tente, mais après je le dis en français. Qui a écrit un livre qui a été traduit, qui s'appelle « Why I can't matter more than my IQ ». Ce qui veut dire, c'est « Mais pourquoi, en fait, je vaux bien plus que mon intelligence intellectuelle ?» C'est un best-seller aux États-Unis, il a été édité en 1995, et il vous fait la démonstration, donc, Daniel Goleman, sur justement le fait que bon sang de bonsoir. Un QI sans un QE, ça vaut rien. Et que c'est vraiment une complémentarité. Réunissons les deux et on va devenir super heureux.
Donc, quand on... Alors, j'ai une question. Quand on... Donc, on voit bien cette différence qu'il y a presque, on dirait, robotique de l'intelligence intellectuelle. Voilà, vraiment intellectuelle à proprement dit. On est intelligent, c'est mesurable. On a bien compris qu'on est avec, en quelque sorte, et qu'on peut un petit peu le travailler, mais c'est... Voilà, pas non plus des masses. En revanche, on voit la différence avec le quotient émotionnel, quoi, l'intelligence émotionnelle, qui, lui, se développe, comme vous le disiez, Claire, jusqu'à 70 ans. Et là, ça va faire vraiment... on s'enrichit de tout, en quelque sorte. Alors, on s'enrichit de quoi ? De notre expérience professionnelle, familiale, sentimentale, tout. Vraiment, il y a tout qui rentre dans
complètement, et
dans cette mesure.
On accumule tout un tas d'expérimentations sur des préceptes tout simples, hein, de cause à effet. Tiens, c'est marrant, tiens. Quelle est la personne, Jennifer, quand vous réfléchissez aux personnes avec lesquelles vous avez travaillé, quelle est la personne à laquelle, je ne demande pas son nom, bien sûr, mais qui vous vient à l'esprit comme étant quelqu'un qui a vraiment marqué positivement votre développement professionnel?
Dans mon expérience professionnelle,
ouais. Gardez-le pour vous, mais simplement, quelle est la personne qui vient à l'esprit?
Alors, ça va vous paraître bizarre, mais vous n'allez pas imaginer la réponse. Même si j'ai eu beaucoup de personnes qui ont influencé ma carrière professionnelle, la première, c'est mon père.
Très bien. C'était une personne qui était plutôt dans l'empathie, plutôt dans le jugement, plutôt dans l'écoute, plutôt...
Dans l'écoute.
Vous ne me dites pas de lui que c'était un homme extrêmement intelligent. J'ai pas dit qu'il ne l'était pas. Mais les premières choses qui émanent de ce que vous dites de lui, ce sont des choses qui ont un trait à l'intelligence émotionnelle.
Oui, ça c'est... Voilà. D'accord.
Et c'est souvent comme ça. On a la chance parfois de rencontrer des gens qui sont... Shakespeare était imbuvable. Et il a fait des choses extraordinaires. Hein. Mm-hmm. Juste, il était imbuvable. Hein. Donc, d'un point de vue intelligence émotionnelle, si ce type-là avait réussi à travailler les deux, vous imaginez ce qu'il aurait pu faire. Ça aurait pu être... Ouh.
C'est vrai que vous voyez ce genre de...
Justement, là, pour en venir, moi, après, des personnes que je reçois en patientèle, donc selon leur QI, leur Q, après, ça, c'est pas mon domaine, hein, c'est de Claire au niveau des évaluations. C'est vraiment aussi cette mission que j'ai tenue à la faire, bon, déjà pour... expliquer ce que c'était, que cette intelligence émotionnelle existait et qu'il ne fallait pas...
J'adore, parce que ça sort un petit peu même de votre... de vos compétences, c'est pas ça, mais pour dire, c'est pas quand on pousse la porte du cabinet que vous êtes en train d'estimer le quotient intellectuel
non,
ou émotionnel.
Tout. C'est pour ça, moi, je m'accompagne de différents professionnels, de différents spécialistes, où j'en fais des alliances, thérapeutiques, voilà.
C'est entre... ça, mais c'est vrai que vous, dans votre cabinet, vous pouvez voir justement des personnes avec une intelligence intellectuelle...
Hyper développée,
et à côté de ça...
Une intelligence émotionnelle, on va dire, un
et
peu plus...
Vous sauriez alors dire quoi, alors Alice, par exemple, s'il y a des... Parce que j'imagine très bien que des personnes vivent des mal-êtres en étant très intelligentes, que sur le papier, ils ont des diplômes à tire-larigot, hein, comme on pourrait dire, mais qu'en même temps, ils ont des émotions qui sont peut-être mal gérées, qui vivent des situations de manière difficile. Et justement, c'est peut-être parce qu'ils ont ce facteur, l'intelligence émotionnelle complètement...
qui est plutôt basse, entre guillemets, ou qui n'a pas été développée tout au long de leur vie. C'est de leur faire finalement comprendre et faire prendre conscience qu'il n'y a pas que ce quotient intellectuel qui compte. Parce que comme vous dites, il y a des gens qui sont très haut placés, qui ont une réussite sociale, professionnelle énorme, mais qui restent malheureux dans leur quotidien, dans le cercle intime et privé, qui ne le comprennent pas. Donc quelque part, c'est les rééduquer et leur faire prendre conscience que ça peut être différent et que, pas parce que non plus, comme dit Claire, peut-être qu'à 50 ans, 60 ans, ils n'ont pas encore acquis ou développé cette intelligence émotionnelle qu'ils ne peuvent pas encore le faire. C'est vraiment aussi ce message-là que je voulais faire passer aujourd'hui. Et également pour ces personnes qui pensent ne pas avoir réussi socialement parlant, combien de fois j'entends « oui, moi, je n'ai pas fait des études ». Je dis « mais moi, je me moque. Moi, vous n'avez pas fait d'études ». Je veux dire, c'est pas, ça veut dire quoi faire des études? Ça veut dire quoi? Je veux dire, c'est pas ça qui compte. C'est est-ce que vous êtes heureux dans la vie que vous avez aujourd'hui avec le métier que vous faites, oui ou non? Et après, on voit ce qui peut être élaboré. Vous voyez, pas parce qu'on a fini neurochirurgien qu'on est l'homme ou la femme le plus humain ou la plus humaine du monde. Vous voyez ce que je veux
dire?
Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, moi. Voilà, personnellement, il n'y a aucun titre, on va dire, ne m'impressionne. Moi, c'est vraiment l'humain qui est derrière le titre.
Oui, il n'y a pas un niveau d'études qui permet de dire qu'on a un niveau social plus élevé que les autres parce qu'on est plus heureux, parce qu'on est avec des niveaux d'études.
Et même pire encore, rappelez-vous l'histoire du QI, hein, on est en 1900 et quelques. Et on apprend, la société considère que la pierre angulaire de la réussite, c'est ces compétences cognitives. Hein. Et que du coup, l'élite française, les dirigeants, les gens qui ont, c'est un peu caricatural, mais les gens qui ont de l'argent, ce sont des gens qui ont de très bons QI. Donc, il faut développer cette compétence. Et elle est complètement antinomique à l'époque des compétences de l'intelligence émotionnelle. Un patron, il n'a pas à être dans l'empathie.
C'est ça.
C'est pas son boulot.
Non.
Et donc, c'était le siècle dernier. Enfin, moi, j'appartiens au siècle dernier. Hein. J'ai pas encore ma petite canne pour marcher, mais j'appartiens au siècle. Je suis née... Là...
Vous entendre, vous allez me dire que c'est une dame de 80 ans. Je rassure, c'est pas ça.
Moi, je suis née là-dedans et j'ai vu la transformation. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes d'aujourd'hui, ils commencent à s'intéresser à leur qualité de vie, à la relation humaine, au plaisir qu'ils ont à faire. Mais vous imaginez, au siècle précédent, là, moi, quand j'étais à l'école,
non, mais c'est vrai
en 95,
on nous apprenait en fait qu'il fallait être un côté technique, avoir les meilleures capacités, voilà, dans son apprentissage du métier, voilà. Confonce, on ne regarde rien, c'est presque de l'individualisme, la réussite personnelle. Voilà, c'était vraiment les bases qui étaient la fondation pour réussir sa carrière, quoi, vraiment. Mais
la société s'est transformée par chance.
Heureusement.
Voilà. Et ça, il faut juste le voir, l'accepter et profiter de cette chance. Le nombre d'HPI, donc des personnes dites à haut potentiel et qui ont des QI très élevés, certains le savent, d'autres le savent même pas. Ces personnes-là, si elles ont la chance de rencontrer l'intelligence émotionnelle, vont pouvoir voir une évolution dans leur vie, mais flagrante. Hein. On parle pas d'années de travail. Non,
c'est ah ouais.
Et c'est intéressant. C'est des choses qui sont. Ouais, que vous disiez
c'est
ça.
Un basculement, quoi, en quelque
voilà,
sorte.
Parce que je travaille aussi avec pas mal d'HPI et finalement et aussi avec des HPE et lorsqu'on donc des hauts potentiels émotionnels et hauts potentiels intellectuels et lorsque les deux viennent se croiser je peux leur dire que ça les équilibre énormément et ça leur fait un bien fou de reconnaître que finalement il n'y a pas que l'intellectuel parce que ça peut les mettre on va dire un petit peu à part de par leur mode de fonctionnement, leur comportement et de pouvoir s'identifier aussi je veux dire à ces quotients émotionnels, ça peut également les rassurer on va dire humainement parlant quoi.
Non mais c'est vrai qu'on a vu ça peut paraître caricatural mais vraiment pas puisqu'on a vu que ça soit ces hommes, après moins les femmes peut-être, mais c'est vrai que quand on a l'image de l'homme d'affaires c'est la personne donc avec une réussite professionnelle optimisée à fond, je veux dire un individualisme démesuré, même on va dire tout ce qui est autour de lui dans l'équipe de travail, souvent les gens ne le considèrent que parce qu'il est intelligent et haut placé, non pas parce qu'il a une capacité d'empathie ou d'émotion envers ses employés, au contraire, voilà, il est même assez chien avec ses équipiers. Donc, on disait que ces gens-là, c'était finalement les meilleurs, c'est ceux qui réussissaient, et en fait, pas du tout.
Non, mais comme
parce que même dans la vie familiale, on les voit assez durs dans leur vie, même avec les enfants. Tu dois faire ça, tu dois aller en école privée, tu dois etc. Voilà.
C'est ça, comme on en a parlé tout à l'heure aussi. C'est quoi être un bon responsable, un bon patron. C'est aussi avoir cette intelligence émotionnelle, comme le disait très bien Claire. C'est pas de mener les gens à la baguette qui amène aux meilleurs résultats, parce qu'après, si on voit les taux d'arrêt de travail, les taux de dépression et autres, c'est pas ça qui fait que l'équipe soit motivée. C'est bien vraiment prendre en considération l'autre, et c'est ça aussi qui est très important dans cette intelligence émotionnelle.
Vous le voyez, vous, Claire, maintenant, puisque apparemment, je comprends que vous êtes coach aussi.
Absolument. Oui, absolument.
Et on fait appel, du coup, à vous, et comment ça se passe? Vous devez faire tomber des personnes de leur chaise, sincèrement, quand vous devez faire parler, que vous dites « Ah, attention, le QI, c'est très bien, mais il y a ça à mettre aussi à côté ».
Alors, moi, les gens qui m'approchent sont des gens qui ont déjà été un petit peu sensibilisés, qui ont rencontré ce genre de lecture dont je vous ai parlé. J'espère que ce genre d'émission va permettre aussi à d'autres personnes qui n'avaient pas
déjà
eu la chance...
Déjà pour moi-même, je vous promets, vous m'avez fait du bien.
qui ont pas eu la chance de rencontrer cela. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il existe un modèle de développement de l'intelligence émotionnelle spécifique aux entreprises. Et ça, c'est de mon point de vue, c'est extraordinaire. Parce que vous avez des personnes qui sont responsables d'entreprises, je parle d'entités qui sont assez importantes, qui ont le souhait d'accompagner le changement. Hein, depuis 3 ans, on travaille en distanciel, on se voit de moins en moins. Il y a des tas de choses c'est un tsunami économique et social. Et donc, on a des entreprises qui pensent à ça et qui essayent de... Et l'intérêt de l'intelligence émotionnelle en entreprise, c'est qu'elle est capable de considérer la structure, l'entité, l'entreprise et ses besoins, mais également l'humain en tant qu'humain. C'est-à-dire que, ok, moi je suis employé de cette boîte-là, alors maintenant on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Bon, je comprends bien l'intérêt pour l'entreprise, mais moi, oui, mon intérêt. pas mon intérêt, l'intérêt au sens noble du terme. Comment moi, je vais mieux m'épanouir? Comment moi, je vais mieux me sentir? Et l'entreprise, qui a des vocations humanitaires de « Ok, il faut quand même qu'on arrange ça pour que nos employés vivent un peu mieux dans le but de générer plus de chiffres. Enfin, » c'est le rôle de l'entreprise.
C'est le but. Okay.
Donc, il existe vraiment des outils qui sont dédiés sur le développement de l'entreprise, le développement de l'intelligence émotionnelle de l'entreprise et des humains qui la composent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, parce que les outils sont présents, mais il faut le faire connaître, et des émissions
c'est
comme
ça,
la vôtre.
C'est ça, il faut le faire connaître, parce que je pense que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'on nous apprend tellement qu'il y a d'autres choses avant ça, que du coup, voilà, sur un CV, c'est les compétences, hein, on va pas vous demander votre intelligence émotionnelle, on est d'accord ? C'est des diplômes, une expérience et stop. Voilà. Mais c'est quand on voit l'importance que ça a, est-ce qu'on pourrait, je vais un peu loin, mais dire que par exemple, ça a pu être des dictateurs qui étaient, je ne sais pas si on peut dire intelligents.
Des génies fous, comme Hitler.
Voilà, qui étaient des génies, dans le sens, ça paraît dur de le dire, hein, parce que
c'est de dire
un homme aussi satanique qu'il est génie, mais en attendant, il a été génie d'en arriver où il en est arrivé et a bouleversé. Et a mené toute une histoire, un peuple, à faire ce qu'il a fait. Mais en même temps, là, on va dire qu'il y a quoi ? Une intelligence émotionnelle zéro, non ? Claire, là, c'est moins 20, non ?
Alors, la particularité, ce cas-là est extrêmement intéressant, parce que, malheureusement, il devait avoir quand même une bonne dose d'intelligence émotionnelle. Ah bon ? Mais l'intelligence, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce que l'on décide de faire de ce que l'on est, c'est autre chose. Donc les personnes les plus intelligentes, d'un point de vue QI ou d'un point de vue émotionnel, ne sont pas forcément de bonnes personnes. C'est une autre dimension, celle-ci.
Ah oui, c'est comme on se connaît soi, on connaît le fonctionnement de l'autre, on peut aussi mieux manipuler les autres.
Ah, donc finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est pas que du positif, c'est pas le monde des bisounours. En fait, en quelque sorte, il peut y avoir un aspect aussi assez... pas cruel, mais négatif, pervers, ouais.
Quelquefois, ah, oui. Ouais. Après, bon, après,
si on servir dans ce sens-là
c'est
aussi.
Ça, après, si on parle du cas d'Hitler, il fait quand même partie des pervers narcissiques.
Ah, oui,
c'est encore une autre catégorie de personnes.
Mais
ça, c'est important à savoir. C'est très intéressant, c'est très constructif et c'est très important d'avoir cette intelligence émotionnelle. Mais malheureusement, lorsqu'on est peut-être HPE, donc, on peut effectivement s'en servir à mauvais escient contre les autres.
Mais voilà, ça c'est important que vous le disiez, parce que je pensais vraiment, un peu peut-être trop naïvement, de dire qu'à partir du moment qu'on avait une grande intelligence émotionnelle, elle était que pour servir le bien, en quelque sorte.
Et non, parce qu'elle n'empêche pas la pathologie.
C'est ça.
Elle n'empêche pas la pathologie mentale. C'est encore un autre registre.
Et là, il suffit d'être sain. Quand c'est sain, c'est merveilleux. Mais quand on tombe sur une personne malsaine, donc qui a cette intelligence émotionnelle-là, ça peut faire des dégâts.
D'accord. Ah non, vraiment, moi, j'étais dans mon petit monde des bisounours. Je me suis dit, émotion, le cœur, vous voyez, l'empathie, tout ce qui va avec.
C'est ce qu'on aimerait.
Donc, on s'en sert de manière positive. Quoi,
oui,
je veux dire,
aussi.
Voilà, mais du coup, non, il n'y a pas que cet aspect-là.
Voilà. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de... En tout cas, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule intelligence et que c'est juste une histoire sociale qui a fait qu'on les a décorrélées, et que l'on s'est centré uniquement sur l'une d'elles. Mais à la base, depuis le début, on n'en a qu'une,
Eh oui, non, ça c'est sûr, mais vraiment c'est très 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 intéressant. Alors, je vous dis, on est à 5 minutes de la fin, pour vous dire tellement qu'on n'a pas vu l'heure passer. Est-ce que, pour la dernière question que je vais aborder, et je suis sûre que les auditeurs la pensent également, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes dans cette intelligence émotionnelle ? Est-ce que le fait d'être homme, femme... permet, parce que souvent, là, on parlait d'hommes d'affaires avec des QI très, très développés, mais il y a les femmes aussi, quand même. Et est-ce qu'elles ont une différence, une capacité plus importante à développer leur intelligence émotionnelle ?
Alors, moi, je vais répondre du point de vue psychanalytique. Je laisserai Claire par rapport à sa partie, elle qui est beaucoup plus, on va dire, centrée aussi sur les chiffres et sur le développement. Peut-être que je me trompe, mais pour ma part, il ne me semble pas qu'il y ait tant de différence que ça. Voilà, parce que nous ne sommes pas, même si on est différent sur le mode de compréhension du langage, ce constitue un homme et une femme, au niveau intellectuel, pour moi, il n'y a personne qui est supérieur ou inférieur. On est égaux et tout dépend de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Voilà, de l'environnement, de la structure, de nos capacités de base. Voilà. Mais maintenant, je laisse Claire venir corréler ou au contraire venir dire autre chose.
Je rejoins complètement Anis. D'un point de vue génétique, il n'y a aucune étude scientifique qui démontre l'un ou l'autre. En revanche, il y a un contexte social qui a fait que les femmes ont une tendance naturelle à développer, ouvrez les guillemets, par obligation, cet aspect de leur intelligence. Pourquoi ? Je vous rappelle, hein, ça date des années 1900. En 1900, une femme, elle ne va pas en école supérieure. Une femme, elle ne rentre pas à l'école de médecine. 1970, allez, à trois ans près, une femme, elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, sauf à ce que son père ou son mari soit là avec elle. Okay ? Donc, la suprématie, faut dire ce qu'il y a, du patriarcat, la place qui a été faite jusqu'à aujourd'hui du patriarcat au sein de la société, et donc la nécessité qu'avaient les hommes à adhérer à ce qu'attendait la société d'eux, en l'occurrence à ce qu'ils aient des quotients intellectuels très développés, ont fait qu'ils ne se sont pas du tout centrés sur leur intelligence émotionnelle, et que la place qu'on a laissée aux femmes, leur ont laissé aux femmes le loisir de tout simplement utiliser un truc qui était déjà là. Hein. Elles ont eu... En fait, l'exemple à retenir, je pense, pour cette fin d'émission, c'est de dire les dons... Prenons les musiciens. Un don musical ne s'exprimera que si le musicien va travailler encore et encore et encore et encore ses gammes. Il deviendra un artiste accompli une fois qu'il sera passé par ce travail. Donc, prenons cette analogie. Les hommes et les femmes sont nés avec la même intelligence. Les hommes, eux, leur gamme, ça a été de travailler leur intelligence émotionnelle. Et la place qu'on a laissée aux femmes pendant des années leur a permis de travailler d'autres gammes qui avaient... pardon, je crois que j'ai inversé.
Oui, c'est ça, cette intelligence, c'était l'intellect. Ouais,
les hommes, c'était... On bosse sur l'intellect, et les filles, elles ont pris ce qui leur restait. On bosse sur les... Donc de fait, effectivement, il y a plus de femmes qui sont compétentes dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, mais pas du tout pour des raisons neurologiques, juste pour des raisons circonstancielles et sociétales.
Et oui. Oui, d'accord. Oui, donc vraiment, c'est pas une capacité plus particulière aux femmes qu'aux hommes, c'est juste la société qui a poussé à ces deux développements différents. Et bon, qui tend, on va dire, à se réduire, puisque
à s'équilibrer,
puisque on va vers une société où l'on espère les hommes et les femmes seront
Et les hommes qui vont de plus en plus, qui s'occupent de plus en plus de leurs enfants aussi. Tend à les aider à se centrer sur.
Mais c'est surtout moi ce qui me fait rire, c'est que quand on voit justement le développement des hommes en étant plus des hommes au foyer, si on peut dire ainsi, à s'occuper des enfants, à faire les tâches ménagères, on voit quand même la question récurrente venir dire est-ce que ça enlève le côté masculin de l'homme du fait un peu je pense le côté macho en quelque sorte est-ce que je crois que c'était on démasculise c'est ça
on les émascule
voilà, je voulais le dire, mais voilà. Donc, en quelque sorte, donc c'est vrai que c'est comme quoi l'évolution des pensées dans la société.
Mais c'est pas du tout le cas. Hein. C'est vraiment. Il y a un superbe livre qui a été écrit qui s'appelle Sapiens Sapiens par le professeur Hariri, qui montre ça mais d'une manière extraordinaire, ce qui fait l'évolution depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à Google de la structure sociale, sociale, psychologique, philosophique, tous les aspects de l'homme et de la femme. Et là, vous verrez, c'est magique.
Il aurait fallu l'émission de 3 heures, en fait, à Anissa, pour ce thème. Donc, je pense que vous inviterez bien volontiers Claire à un nouveau thème ou à redévelopper un petit peu. Mais moi, franchement, ça, merci. Déjà, je tiens à vous dire merci, Alice, personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses et je ne savais pas qu'il y avait vraiment une différence entre l'intelligence intellectuelle et donc le quotient intellectuel et l'intelligence émotionnelle. Je ne savais pas qu'il y avait avez déjà le moyen d'estimer cette intelligence émotionnelle, comme quoi l'importance aussi de joindre les deux et qu'elles ne sont pas opposées, bien au contraire, elles sont plutôt à mettre, voilà, à mettre ensemble pour mieux avancer dans la vie et s'épanouir aussi. Et voilà, merci pour ça.
Et surtout, pardon, s'il y a encore une place, ne faites pas de tests ni QI ni QE sur Internet.
Parce qu'ils sont pas...
Parce que les sondages, on propose des sondages qui donnent des... Ce ne sont pas des tests, hein. Donc surtout, c'est très, 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 très important.
Si on veut les faire, justement, vous...
Il faut aller voir des professionnels.
Bon, allez, ça, c'est assez bien dit.
Le QI, c'est l'apanage des psychologues. Le QI, c'est l'apanage des personnes qui ont été certifiées, qui ont passé des diplômes pour cela. Sorti de ça... ce sont des tests, j'allais citer des revues, ce sont des tests de Madame Soleil.
Oui, ah, voilà,
on fait plus l'horoscope maintenant, mais c'est de ce registre-là.
D'accord, oui, donc à la limite, orientez-vous vers des professionnels, et je suis sûre que moi je vais avoir les questions à me dire, vous pouvez nous en dire des professionnels. Donc il va falloir me laisser quelques noms, Alice, de notamment. Claire, si vous voulez d'ailleurs donner vos coordonnées, au moins ça m'évite de le faire déjà, si vous avez des coordonnées à donner.
Ah, volontiers, c'est très gentil. Moi, on peut me retrouver sur un site qui s'appelle vivrelieu.com.
Vivrelieu.com.
Voilà, donc c'est vivre comme... Et comme la vie. Mmh. Et l'IE, c'est la contraction de intelligence émotionnelle, sans point, sans tiret, sans rien.
Bon, d'accord, ça déjà pour vous, Claire, au cas où. Et notre Alice, on connaît aussi vos références, mais dites les au cas où, comme ça je n'ai pas toujours à les faire. C'est la fainéantise.
On me retrouve toujours à mon cabinet de Saint-Cyr-sur-Mer et également à Avignon. Et toute mon actualité, vous pouvez la retrouver en ligne sur ma page Facebook, Alice le compte psychanalyste. Et Jennifer, vous me regardez, donc je laisse mon numéro, qui est le 06 48 72 79 97.
Merci à toutes les deux, franchement, une très belle émission qui nous a appris beaucoup de choses. On a augmenté notre quotient intellectuel, moi pour moi, pour ma part, et peut-être émotionnel aussi. Voilà, et à refaire, franchement, avec grand plaisir, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire. Et écoutez, ça a été une émission 100% femme, ça a été pas mal aussi.
C'est ça.
À la prochaine, Alice. Alors, pour le prochain thème, on se dit vendredi prochain.
Vendredi prochain, et ça sera autour du complexe d'Œdipe.
Complexe d'Œdipe, ça va être aussi encore quelque chose à dire, ça. Bonne soirée à vous tous.
Merci, bonne fin de journée. Merci. Au revoir.